voix nue. Cette semaine, Raphaël Rérol rencontre Françoise Mouly. Ce soir, en dialogue avec sa fille Nadia Spiegelman.
Bonsoir Françoise Mouly et bonsoir Nadia Spiegelman. Nous avons le plaisir d'être ensemble ce soir avec Françoise Mouly, qui est la directrice artistique du magazine américain The New Yorker, et avec sa fille Nadia Spiegelman, avec laquelle nous allons être en dialogue pendant toute cette soirée. C'est une innovation parce que vous travaillez ensemble, et un des livres importants pour lesquels vous avez travaillé toutes les deux, c'est un livre qui est paru en France en 2012 à La Martinière, qui s'appelle Les Dessous de New Yorker, et dans lequel Françoise Mouly et Nadia expliquent la manière dont vous travaillez. Comment est venue cette idée ?
Quand on travaillait sur Le Dessous de New Yorker, moi j'avais 24 ans, et pour moi c'était une révélation de voir tout ce que faisait ma mère, parce que je l'avais vue en tant qu'enfant en rentrant dans son bureau, mais là je comprenais pour la première fois le processus de comment elle faisait les couvertures. Elle avait pris le mur qu'il y avait dans son bureau, elle mettait les couvertures qui avaient été rejetées parce que c'était un peu trop poussé pour être publiable, mais qui n'étaient pas les déchets ou les parties moins intéressantes de son travail, qui étaient même le centre de son travail, parce que c'était ce côté de laisser aux artistes un sens de, qui n'avait pas de censure, qui pouvait se pousser aussi loin que possible, qui du coup trouvait derrière la bonne couverture. Et elle avait pris ce mur et elle en avait fait un livre. Elle m'expliquait et puis moi j'essayais de retranscrire ses pensées, mais ça me fascinait comment est-ce qu'une couverture du New Yorker vient en vie et comment elle voyage à travers plusieurs esquisses différentes pour affiner une idée qui est après la couverture qui se retrouve publiée.
Et Françoise Mouly, ce mur de travaux refusés, vous le montrez aux auteurs quand ils viennent dans votre bureau ?
À chaque fois que je publie une bonne couverture, non seulement c'est une bonne couverture, mais ça va aussi être l'aiguillon qui va forcer les autres en disant « Merde, pourquoi moi j'ai pas fait ça ?» et qui vont se remettre au travail et essayer de la jalousie et la compétition. Sont de très très bonnes choses justement pour les gens créatifs, et c'était clair à chaque fois que les gens venaient qu'ils apprenaient beaucoup plus en voyant les esquisses et ce qui n'avait pas été choisi qu'en ne voyant que ce qui avait déjà eu l'imprimature du New Yorker. Et quand j'en parlais avec Nadia, c'était bien pour moi parce qu'elle n'avait pas forcément le même bagage, parce que t'es d'une génération différente, et qu'elle savait bien poser des questions, écouter les réponses. Donc elle a été mon répondant pour expliquer ce processus, suggérant qu'on divise ça en chapitres, parce que c'est vrai qu'il y avait certains sujets qui revenaient à... Il fallait une phrase ou deux d'explication et de réduire à l'essentiel cette explication. Et Nadia travaillait pour moi parce que j'avais toujours gardé, après avoir démarré au New Yorker, une main dans la pâte de ma propre maison d'édition. Et là, je ne publiais plus Raw, le magazine dont on parlait l'autre soir, parce que je savais que certains, après la publication de Mouse en livre et plus de 10 ans de Raw, qu'il y avait d'autres débouchés pour ce genre de travail, d'autres gens qui étaient prêts à les publier. Mais par contre, j'allais à l'encontre de ce que j'avais eu fait quand j'avais démarré en disant « les BD, ça n'est pas que pour les enfants, ça peut être utile ». Maintenant, je disais « mais tout le monde se désintéresse de quelque chose de très important, les BD, ça peut être pour les enfants ».
Ah, mais alors ça, c'est une chose, on va en reparler juste après, mais je voulais encore, Françoise Mouly, vous poser une question sur les dessins refusés, parce que vous dites que le fameux mur de la honte, c'était une source d'émulation pour les auteurs, mais au fond, c'était quand même des dessins qui avaient été refusés. Quels étaient les grands critères, par exemple, est-ce que vous avez dit qu'il y avait un chapitre sexe, c'était une qui était trop osée, qui ne serait pas passé.
C'est-à-dire le processus demande, comme le disait Nadia, qu'on aille au cœur de la chose, sans se soucier de savoir que ça soit la religion, que ça soit le pouvoir, le sexe. Il faut savoir éviscérer et aller aux entrailles et prendre quelque chose qui va à provoquer une réaction. Et j'ai cette conversation avec tous les artistes, mais surtout avec des gens comme Barry Blitt, hein, qui font des petites esquisses. Et il me montre un dessin où, dans les spectateurs de théâtre, sont tous en train de rire, et il y a une personne qui ne rit pas, et c'est un néo-nazi, un petit punk, hein, et il n'est pas du tout en train de rire. Et je lui dis, mais je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire, hein. Et il me montre et il soulève que son dessin original, c'était Hitler, hein, qui était dans un public, parce qu'à l'époque, il y avait eu cette pièce de théâtre qui était sur Springtime pour Hitler, qui faisait... un tabac sur Broadway. Il dit, mais oui, mais vous êtes le New Yorker, tu vas pas publier Hitler en couverture, hein. Je dis, mais montre-moi les trucs tels qu'ils te viennent à l'esprit, n'essaie pas de les habiller, etc. Et en fait, j'ai montré le dessin original à David Mamnick, qui s'est mis à éclater, l'éditeur du New Yorker, qui s'est mis à éclater de rire et qu'on a publié et qui a fait rire tous nos lecteurs. Et c'est ça qu'il faut que les artistes me montrent. Alors je leur dis, je disais à une dessinatrice, à Anita Kuhn, je lui dis, écoute, pense à moi comme ton confesseur, hein. Tu peux tout me dire, hein. Tu peux tout me montrer, et il faut pas te dire, ah, oh, mais elle va avoir une mauvaise opinion de moi, ou David Duhamel va plus jamais vouloir me publier parce que j'aurais dit quelque chose de trop osé. Au contraire, c'est moi qui fais le filtre. Je crois que c'est un espace privé entre les artistes et moi, où on peut dire, on peut oser tout dire. Et après, je sélectionne et je filtre. Et c'est pour ça que le processus avec Naja était très utile pour moi, de parler de ça avec quelqu'un qui n'allait pas te passer de jugement et qui était littéralement curieuse de rentrer dans la ronde. Cet enthousiasme que Naja m'avait montré pour... tu m'as souvent dit d'ailleurs que... Pour toi, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas tellement d'autres débouchés.
Ben oui, c'était ça. Après, quand on travaillait sur le livre, ma mère avait dit, ben, il faut qu'on promouvoie le livre, est-ce que tu peux m'aider? Et j'avais eu une idée qui était de créer un site web sur lequel on mettait toutes les semaines une compétition qui serait pour une fausse couverture du New Yorker, sur les thèmes des couvertures du New Yorker possibles. Alors, le printemps, la fête des mères, à l'époque, il y avait une tuerie d'un homme noir par la police, des choses qui auraient pu faire des thématiques. Et toutes les semaines, du coup, on a commencé à recevoir entre 200 et 300 images toutes les semaines, et on les regardait tous ensemble, elle et moi, et on choisissait les top 10, et après on commentait les top 10 sur « voici pour ça, ça marche un peu mieux que ça ». Et ce qu'on voyait tout de suite, c'était qu'il y avait des images qui revenaient souvent à travers beaucoup d'artistes. Il y avait beaucoup de statues de la liberté, il y a des symboles vers lesquels les gens retournaient. Je commençais à voir le langage à travers lequel ces couvertures marchent, et réaliser qu'il y avait... cette sorte d'image qui est signée par un artiste, qui raconte une histoire sans mots, qui est une image idée, n'existait presque nulle part ailleurs, à part la couverture du New Yorker. Mmh. Et que du coup, même les artistes qui étaient en train de nous envoyer des choses étaient en train d'apprendre de semaine en semaine, en lisant les commentaires que ma mère donnait sur « voici pour ça, ça marche ». Bon, il y a un ours, c'est très bien, mais l'ours, il porte des chaussons en tête de lapin, et ça distrait un peu, alors sans les chaussons ce serait mieux. Ce sort de editing que je comprenais comment faire d'une manière littéraire parce que j'avais étudié ça à l'école, mais de le voir fait d'une façon visuelle, c'était vraiment intéressant.
On peut peut-être parler de ce que vous commenciez à évoquer tout à l'heure, Françoise Mouly, qui est la maison d'édition pour laquelle vous avez travaillé ensemble, d'abord parce que Nadia Spiegelman a écrit pour cette maison, mais est-ce que l'une ou l'autre pourrait m'expliquer quel est le principe?
Le principe, c'était de pallier à ce qui n'existait pas encore, hein, c'est-à-dire des bandes dessinées intéressantes, et surtout pour les enfants qui apprennent à lire. Hein. Donc, je suis allée à la base.
Ça veut dire éducative.
Oui, parce que... éducative et ludique en même temps, parce que, ayant grandi en France, les deux ne sont pas très séparés en France. On a des jeux qui vous apprennent, et on apprend avec des images et des jeux. Et aux États-Unis... un pays très puritain, c'est l'un ou l'autre. Alors moi, j'étais la mère de deux enfants qui ont toujours adoré lire des bandes dessinées, qu'on leur lise des bandes dessinées. Leur père lisait en anglais, moi je lisais en français. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas l'équivalent aux États-Unis, que les enfants qui apprenaient à lire, et c'est très dur d'apprendre à lire en anglais parce que ce n'est qu'à moitié phonétique, l'autre moitié c'est de la mémoire visuelle, parce que ça s'appelle n'importe comment, les mêmes sons s'appellent de trois façons différentes, et la même orthographe se prononce de quatre façons différentes. Alors c'est vraiment très dur par rapport au français ou à l'espagnol. Et les bandes dessinées étaient un support merveilleux pour amener l'enfant vers le livre parce qu'il avait l'impulse qu'il pouvait suivre, son appétit pour suivre le narratif visuel et découvrir les quelques mots qui allaient apporter, mais que c'était multimodal. C'est-à-dire que si on donne un livre entièrement écrit à un enfant, il ne sait pas par où commencer s'il ne sait pas encore lire. Si on donne un livre illustré, trop souvent l'image répète ce qui est écrit dans les mots. Mais si on donne une bande dessinée, on donne un fil narratif qui est montré visuellement avec un des sons de cloche qui est les mots. Et ça donne envie de lire les mots et ça donne le contexte pour les mots. D'ailleurs, c'est très, très utile. Ça leur montre les émotions, par exemple. Ça leur montre comment on peut réagir émotionnellement à certaines situations. Il y a tout un tas d'informations sur les rapports de force entre le frère et la sœur, par exemple. En fait, tout un tas de contenu qui est montré visuellement et c'est un très très bon support.
Et pour l'apprentissage de la langue, c'était le support que vous aviez exactement imaginé très intelligemment, comme vous nous en avez parlé dans la deuxième émission. Nadja Spiegelman, vous avez collaboré à cette collection, à cette bibliothèque. On ne peut peut-être pas parler en détail des trois livres, mais celui que vous préférez, parlez-nous de ce que c'était.
Celui que je préfère, je dirais que c'est celui que j'ai fait sur le système de métro à New York. Et c'est ma mère à chaque fois qui me donnait, elle disait, j'en veux une sur le cycle du nitrogène, j'en veux une sur... Là, elle me disait, j'en veux une qui est basée sur la carte du système de métro. Et du coup...
Parce que j'adore les cartes. Les cartes.
Et elle m'avait mis en collaboration avec un artiste extraordinaire qui s'appelle Sergio Garcia, et qui, lui, adore faire des choses qui existent dans une sorte d'espace imaginaire, où tous les personnages sont représentés sur une carte et le temps bouge sur la carte elle-même. Il adore être expérimental avec la forme. Et ça m'a permis, du coup, chaque page, on change un peu de comment c'est fait. Il y en a une avec des cases, mais il n'y en a qu'une seule. La reste, c'est un peu... ça bouge un peu partout. Il y en a une où les poteaux sur lesquels les gens se tiennent forment après les divisions entre les cases de la BD. Et j'ai pris ces choses-là pour raconter après une histoire qui est à la fois sur un nouveau enfant qui se perd dans le système du métro tout seul pendant une excursion d'école. Il est nouveau à l'école et il se perd dans le système de métro, ce qui était une de mes grandes peurs quand j'avais 11 ans et je prenais le métro toute seule. Et à la fois raconte avec des photos et avec des vrais faits l'histoire du système de métro new-yorkais.
Vous êtes mariée trois fois, Françoise Mouly?
La première fois, c'était ce qu'on appelle en anglais un shotgun marriage. C'était pour ne pas être déportée. La deuxième
fois... Pour des questions de visa.
Pour des questions de visa, oui. Parce que j'étais restée trop longtemps sur un visa touriste, etc. Et puis mon mari était américain, donc... Art était américain. Et la deuxième fois, c'était pour satisfaire aux conventions pour le père de Art, parce que vu ce qu'il avait vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, je lui avais proposé et il avait accepté que je me convertisse au judaïsme et nous avons pu avoir une petite cérémonie
religieuse,
qui était un mariage juif, mais j'avais jamais eu de mariage qui était pour nous, avec des amis, des invités, etc. Et quand j'ai demandé à Art, qui avait 50 ans, qu'est-ce que tu veux pour tes 50 ans, il m'a demandé ma main en mariage.
Oh, c'est très joli. C'est vraiment très charmant. Une question que je ne vous ai pas posée, Françoise Mouly, mais c'est vous trouvez que les images sont plus fortes que les mots?
Ce que j'adore, c'est le fait qu'ils soient tellement complémentaires. Et ce pourquoi je me suis battue, c'est pas pour que les mots remplacent les images ou que les images remplacent les mots, mais pour qu'on accorde le même respect aux images qu'on accorde aux mots. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, bien sûr, j'adore la littérature, j'ai une fille qui est écrivain, j'adore lire, et dans la bande dessinée d'ailleurs, il y a beaucoup d'écriture, mais on a tendance à ne pas se rendre compte de l'effet que les images ont sur nous. J'ai d'ailleurs un des artistes avec lesquels je travaille qui me dit « mais on parle de la bande dessinée comme le mélange des mots et des images ». Mais lui, il décrit ça comme le mélange de la poésie et du graphic design. Et je crois qu'il a raison, que c'est une épuration des mots, autant que c'est une épuration des images, et c'est les mots et les images à leur plus raffinés, à leur plus concis, justement, qui sont mis ensemble pour véhiculer des symboles.
Et c'est ce que vous avez mis en pratique, toutes les deux, Nadja Spiegelman et Françoise Mouly. Il me semble que ça fait partie du projet de Resist, voilà, qui est un très beau magazine, je l'ai entre les mains, qui est complètement illustré, mais cette illustration fait la place aux mots. Est-ce que vous pouvez, l'une ou l'autre, peut-être que Nadja voudrait bien nous dire comment c'est né ce projet. D'abord, qu'est-ce que c'est ce projet Resist?
D'accord. C'est un peu dur à expliquer parce que c'est une combinaison de tellement de choses différentes et qui en Amérique n'existe. C'était pas vraiment comme ça avant, mais c'est né après l'élection de Donald Trump et c'est le premier, c'était un journal qu'on a imprimé à 60 000 exemplaires et qu'on a donné gratuitement lors des manifs qui entouraient l'inauguration du président. C'était pas né avec ça en tête. Je crois que si on avait dit ou à ma mère ou à moi, on va imprimer 60 000 exemplaires, les donner gratuitement et trouver comment les distribuer partout dans les États-Unis, on aurait dit non.
Parce qu'il a été élu en novembre et son inauguration était en janvier. Oui. Il y avait un mois et demi de battement. Oui. Et on m'avait proposé, parce que j'ai un certain standing dans le milieu de la bande dessinée, comme une des femmes qui était là dès les débuts et qui a fait évoluer la perception et la conception de la bande dessinée, c'était quelqu'un qui a une galerie et une librairie, qui publie un journal assez régulièrement, qui pour l'inauguration, il allait y avoir une grande manif de femmes à Washington et dans toutes les autres villes, voulait avoir une publication qui montre surtout le travail des femmes et qui m'a dit, je veux pas moi...
Des femmes dessinatrices.
Des femmes dessinatrices. Et il m'a dit, mais j'aimerais bien avoir une femme éditrice, est-ce que tu peux faire ça? Et aussitôt qu'il m'a proposé ça, j'ai ressenti à quel point c'était correct, parce que moi, le choc de l'élection de Trump, on s'y attendait absolument pas, mais la seule chose qui avait eu une résonance pour moi, c'était des amis qui disaient « oui, il va y avoir une manif de femmes ». C'était devenu spontané. Le sexisme de Trump, c'était pas son seul défaut, mais c'était le plus flagrant, parce que c'est quand même plus de la moitié de la population des États-Unis qui était disenfranchised, qui perdait... Qui était disqualifié et qui, en plus, était convaincu qu'on allait fêter la première femme présidente aux États-Unis. Je ne sais pas si on aimait Hillary Clinton ou pas, la question n'était pas là, mais on avait préparé, d'ailleurs avec une artiste française, une couverture pour l'élection de Hillary Clinton. Oui. On avait ça en place, oui, parce que l'élection, les résultats sortaient un mardi soir, et moi, il fallait que je l'envoie à l'imprimeur dans les 24 heures. Donc, 85% de chances qu'elle se fasse élire, j'avais une image de prête.
Et vous en aviez une autre de prête pour
Donald
Trump ?
Absolument pas. Non, personne n'avait conçu que c'était possible. Donc j'ai été complètement décontenancée et je ne savais pas comment reprendre pied. L'image qui a été publiée pour le New Yorker, c'était un mur de briques et j'avais vraiment cette impression de m'être heurtée à du béton, point de vue de reprendre pied dans la réalité. Et tout ce qui avait à voir avec une manifestation pour les femmes, un magazine pour les femmes et puis surtout l'idée d'avoir un truc imprimé, C'était, oui, c'est en faisant une publication que je vais trouver, je ne sais pas qu'est-ce que ça sera, mais ça va être la voie que
donner
je vais
la voie
suivre. Et aussitôt, la première chose qui m'est venue à l'esprit, justement ce travail de recherche sans connaître le but, sans savoir comment aboutir, j'espère que je vais pouvoir faire ça avec Nadja. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça me permettait d'avoir un dialogue avec quelqu'un qui amènerait quelque chose. Et puis aussi, c'était multigénérationnel, parce que j'ai l'impression aussi que cette élection a beaucoup à voir avec la fin de la mainmise sur la culture de ma génération. Qui suis devenue consciente de la politique en mai 68, je crois qu'il est temps de passer la main. quand on a l'élection d'un Donald Trump, quelle gifle, quelle baffe donner à
quel
tout
fric.
Ce... Ah oui, c'est vraiment... Donc, je voulais... La génération de Nadja et de mon fils n'ont pas beaucoup voté, n'ont pas beaucoup participé à cette élection, mais je crois que maintenant... Ils se sentent concernés.
Moi, j'ai voté. quand ma mère m'a parlé du projet, je pense tous les deux, ce qu'on avait en tête tout de suite, c'était de reproduire quelque chose de similaire qu'on avait fait pour le dessous des New Yorkers, qui était de créer une page Internet où les soumissions seraient complètement ouvertes.
Parce que candidatures.
Les candidatures, oui. Parce que quand ma mère, quand on lui demande d'être éditeur de quelque chose comme ça, on s'attend qu'elle regarde dans son Rolodex, qu'elle appelle les 10 artistes femmes qu'elle connaît et qu'elle leur dit, toi, t'as 2 pages, toi, à 3 pages et qu'elle met ça ensemble. Mais ça, c'est pas très excitant. Ce qui était beaucoup... Ça peut l'être, mais ça n'allait pas créer quelque chose de nouveau. Là, ce qui était excitant, c'était de... On a créé une page web. Le premier jour qu'on s'en était parlé, ma mère a écrit Résiste en Sharpie. Elle a pris ça comme le logo et on a fait une couverture, parce qu'il faut toujours commencer par ça. Après, on a créé une page web où les gens, n'importe qui, on a dit tout le monde, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes, absolument tout le monde pouvait nous envoyer des images. Ça, c'était important pour ma mère, que ce soit les femmes, mais pas que ce soit pas exclusif, que ce soit l'opposé de Trump qui disait « nous on est ceci et les autres ils existent en dehors », que tout le monde puisse envoyer quelque chose. On l'a mis sur Internet le jour de Thanksgiving, on l'a mis sur son Facebook et sur le mien, c'est le 24 novembre, du coup 3 semaines après l'élection, et on s'y attendait pas du tout, mais c'est devenu viral presque immédiatement, le jour de Thanksgiving. Les gens avaient déjà appris leur crayon, avaient déjà commencé à dessiner, le premier jour on a dû recevoir quelque chose comme 200 images. Et entre là et quand on a arrêté...
Des images ou des bandes dessinées ou des histoires déjà?
Au début, on recevait...
Que des images.
Surtout juste des choses que les gens avaient fait déjà. Alors, s'ils étaient déjà dessinateurs de bandes dessinées, peut-être ils avaient créé quelques bandes dessinées. Sinon, c'était des esquisses, des images. Après, on montrait...
Tous des femmes, hein?
Non, beaucoup pas d'hommes. Que, surtout, au début, il y avait beaucoup d'hommes, parce qu'on n'était pas exclusifs. Après, on remontrait sur notre site web qu'est-ce qu'on aimait. Et là, on montrait surtout des images par des femmes. Et les gens regardaient qu'est-ce qu'on était en train de renvoyer. Et ça changeait un peu qu'est-ce qu'on était en train de recevoir. Et comme on les recevait sur une période de 3 semaines, les gens commençaient à créer des choses qui répondaient à ce qu'on avait déjà montré. Beaucoup plus de femmes, quand elles voyaient qu'on allait publier des femmes et que c'était les femmes, les voix des femmes qu'on mettait en avant, on a commencé à recevoir beaucoup plus de soumissions par des femmes. Et même la qualité de ces soumissions-là a commencé à changer, parce qu'au début, quand les femmes prenaient le stylo, elles sentaient la pression de « Ah, je suis une dessinatrice femme, il faut que je parle pour toutes les femmes. » Et après, quand elles ont réalisé que non, en fait, leur voix serait dans une masse de voix de femmes, elles pouvaient commencer à parler plus pour elles-mêmes, de leur expérience en tant qu'immigrante, en tant que prof, en tant que mère, mais d'autres parties de leur expérience qui n'étaient pas seulement leur côté féminin.
Mais en tout cas, ça fait un magazine absolument magnifique. Hein, vraiment, on voudrait qu'il arrive en France, en fait. On voudrait que vous fassiez la même chose pour nous, s'il vous plaît.
Non, mais il y aura sans doute quelques exemplaires qui seront importés dans les librairies spécialisées. C'est ce qu'on essaie d'arranger, parce que justement, on a travaillé toutes les deux. On a quelque chose qui nous permet d'adorer travailler ensemble, c'est qu'on est toutes les deux très bûcheuses. Mais Nadja s'est dévouée à faire une diffusion gratuite de cette publication grâce au support
Free, c'est marqué.
Oui, dans 40
il va y en avoir d'autres.
Et quelques États. On verra, on fait les choses une à la fois. Et puis, il y a quelques Français qui essayent justement d'en faire une petite sélection publiée en France.
C'est magnifique, c'est une très belle compilation.
Parce que ça donne une réalité à la présence justement de la voix des femmes. Et c'est ça qui était intéressant quand on regardait les choses ensemble, justement de pouvoir avoir ce discours et qu'on choisissait. que beaucoup d'hommes faisaient des caricatures politiques et dessinaient Trump, mais les femmes, pour la plupart, parlaient d'elles-mêmes, de leur corps, de leur choix, de leur vie, du moment qu'elles avaient vécu. C'était très intimiste et très... C'est une autre voix qu'on n'entend pas d'habitude, justement, qui est... Et beaucoup, beaucoup de gens nous ont envoyé des trucs qui n'étaient pas forcément des professionnels de l'illustration ou de la BD. Des gens qui s'y sont mis parce que ça leur a paru abordable, parce que c'était une façon, justement, de participer à un collectif. L'aspect collectif et l'aspect volontaire, le grassroots... Inspiré et motivé, je crois que l'échange qu'on a eu justement de ma génération avec celle de Nadja, c'est que je voulais que tu parles du fait que tu te sentais peut-être plus concernée.
Oui, il y avait quand ma mère, moi j'ai dit on fait un journal de femmes, pourquoi est-ce qu'on mettrait des hommes? Et quand ma mère m'a expliqué, bon on va pas être exclusive, ça m'avait convaincue. Et en même temps on avait des conversations dans l'autre sens, on avait des coups, on avait la plupart du magazine était pour les femmes. On avait créé un man cave derrière. Mais comme on recevait quelques images qui étaient par des gens qui s'identifiaient ni comme femmes, ni comme hommes, mais comme au milieu de leur genre, et c'était des bonnes images, je lui disais, mais il nous faut une nouvelle page pour ça. Et c'était cette sorte de conversation qu'on avait. Moi, ça m'était très, très importante qu'on aille chercher encore plus loin que notre Facebook pour trouver des artistes qui n'étaient pas blanches. Mais bon, c'était un peu du va-et-vient sur ce genre-là.
Bon, en tout cas, voilà, le résultat est absolument formidable. Malheureusement, on est au bout du temps qui nous est imparti et au bout de la semaine aussi, puisque c'était le dernier épisode de cette série d'émissions. Un grand merci Françoise Mouly, avec qui nous avons passé cette semaine. Un grand merci à Nadja Spiegelman, avec qui nous avons passé cette soirée. Et bien, bonne fin de soirée à toutes les deux. Au revoir.
Surtout, merci à vous, Raphaël. C'était un plaisir.
Merci.
Cette rencontre de Raphaël Rérol avec Françoise Mouly. À voix nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Yann Fressy, coordination Claire Poincignon. Voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Thank you.